Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Pardon pour ce léger retard et ce petit temps additionnel offert aux fans de foot. Il nous reste 1h30 à passer ensemble. On va donc commencer rapidement. Appelez-moi ce soir au 39-21 si vous souhaitez prendre la parole. Venez me parler des sujets qui vous préoccupent. Venez me parler de vous et de votre vie. 39-21 donc pour que nous puissions discuter en direct. Si vous souhaitez intervenir par SMS, c'est le 7-39-21 en commençant par le mot « nuit ». Et puis par mail, c'est libreantenne, tout attaché, libreantenne@europe1.fr. Et puis parce que vous savez que le sujet me tient à cœur, je vous rappelle juste au passage que c'est la journée, ce week-end, ce sont les journées portes ouvertes à la SPA. Il y a 62 refuges en France, ça veut dire qu'il y en a sûrement un pas loin de chez vous. Pensez-y, merci pour eux. Amandine, Hassan et Andreas sont prêts, si vous l'êtes aussi, bien la libre antenne, ça commence maintenant.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et le premier appel que je prends ce soir, c'est celui de Gaëtan. Bonsoir Gaëtan.
Bonsoir Sabine et bonsoir à tous.
Bienvenue.
Merci.
Alors racontez-moi ce qui vous arrive.
Oui, donc ce qui m'arrive, c'est que je vis chez mes grands-parents depuis le mois d'avril dernier. Au début, tout allait bien, mais ça a commencé à s'empirer. La relation avec eux est devenue très problématique. Et là, actuellement, c'est très compliqué. On se prend la tête régulièrement et on n'arrive pas à en sortir. À mon avis, c'est dû au décalage relationnel parce que tout ce que je fais quand je vais voir des amis et tout...
Décalage générationnel, vous voulez dire ?
Oui, c'est ça. Oui. Quand je vais voir des amis ou quand je sors en extérieur, ça les stresse, ça les énerve, ils s'énervent pour tout et pour rien.
Alors, est-ce que je peux avoir plus d'infos sur le contexte ? Déjà, quel âge avez-vous, Gaëtan ?
Oui, j'ai 19 ans.
19 ans. Comment ça se fait que vous avez atterri chez vos grands-parents ? Et ce sont les grands-parents de quel côté ?
Ce sont les grands-parents du côté de mon père. Mmh. Et j'ai atterri chez eux parce qu'avant, j'étais en institut médico-éducatif. Mais ils n'ont pas pu me garder parce que j'ai été trop grand. Et ma mère, elle n'a pas pu me récupérer après, ni mon père, parce qu'ils se sont séparés en 2007. Et ma mère a refait sa vie avec un compagnon, avec des enfants. Et mon père a refait sa vie avec une belle-mère, mais dans un petit studio. Et ils n'ont pas la place de m'accueillir.
D'accord. Pourquoi vous étiez dans cet institut ?
Parce que au début, je vivais chez mon père et il a voulu aller faire sa vie. Et comme il en a profité que j'ai des problèmes pour me mettre en institut.
Quel genre de problème avez-vous ?
Je suis autiste.
D'accord. Donc, oui. Vos parents vous ont mis dans cet institut et là, vous en êtes sorti il y a combien de temps ?
J'en suis sorti l'année dernière.
L'an dernier ? Dans quel état d'esprit, avec quelles envies ?
Oui, avec l'envie de faire un bac pro en apprentissage. Mmh. Et après, c'est mes grands-parents qui ont proposé de m'accueillir. Donc, comme je les voyais le week-end à ce moment-là, et ça se passait bien. Mais après, quand j'ai commencé à vivre chez eux tout le temps, c'est là que ça a commencé à s'empirer.
Est-ce que vous vous entendiez bien avec eux avant, quand vous étiez plus petit ?
Oui, je m'entendais très bien quand j'étais plus petit, oui.
Et eux, comment est-ce qu'ils s'entendent avec votre père et votre mère ? Quelles sont les relations entre eux ?
Avec mon père, ça a toujours été très tendu. D'ailleurs, là, ils sont fâchés avec mon père. Et avec ma mère aussi, ils lui en veulent qu'ils se soient séparés, en fait.
D'accord. Et du coup, est-ce que vous voyez quand même vos parents, vous ?
Oui, je vois mes parents, mais ça les énerve, surtout que j'aille voir ma mère. Ils supportent pas que j'aille voir ma mère.
Et pour quelle raison ça reste quand même ? Quoi qu'il arrive, ça restera toujours votre maman, hein ?
Oui, je sais, mais parce que il s'est passé des histoires que personne ne veut me dire.
Ah.
Et oui, et
Comment vous savez
c'est pour
ça?
ça, en fait.
Si on veut pas vous le dire, comment vous l'avez deviné?
Oui, ben c'est parce que à chaque fois il parle mal de ma mère et il insultait. C'est comme ça que je l'ai compris.
Ah, c'est leur belle-fille.
Oui, c'est ça.
Ce sont des gens qui ont
Leur
quel âge?
ex-belle-fille, oui. Ils ont 63 ans.
Ah oui, donc ce sont des jeunes grands-parents.
Oui, c'est ça.
Vous parliez tout à l'heure de conflits générationnels, mais c'est pas, il n'y a pas tant d'écart que ça. Je pensais que c'était des gens qui avaient dans les 75-80.
Non,
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 ils sont
non,
jeunes.
pas du tout.
Est-ce qu'ils sont encore
Oui.
actifs?
Non, non, ils sont à la retraite.
À la retraite tous les deux.
Oui, tous les deux.
Et donc au début, donc il y a un an, ils vous ont proposé de vous accueillir. Est-ce qu'ils vous accueillent est-ce qu'ils ont les moyens de le faire correctement pour vous? Est-ce que vous êtes bien? Vous avez une chambre à vous?
Oui, pour ça j'ai une chambre à moi, oui,
Donc
mais
personne n'a
après
empiété
ma.
sur l'indépendance de l'autre?
Non, non, non,
Non.
non, ben, mais là, si, si, en fait, ma grand-mère, surtout, elle commence. Et moi, ça me stresse parce qu'en fait, elle est toujours en permanence en train de regarder ce que je fais. D'ailleurs, il y a un mois, j'ai été privé de porte dans la chambre.
Ah!
Oui.
Oui, c'est
Ben
curieux
oui.
comme punition, ça. Je l'avais jamais entendu, celle-là. Privée de
Ben
porte.
oui, ben, on est privé de porte pendant une semaine. Elle m'a enlevé la porte de la chambre.
On en sourit, mais c'est
Oui.
très, très étrange. Et
C'est.
qu'est-ce que vous aviez fait qui lui a déplu pour qu'on en arrive là?
Oui, ben, je sortais de ma chambre et je rentrais le matin. Quand je me levais, ça la dérangeait le matin. Quand je vais travailler, ben, ça la dérangeait que j'ouvre la porte.
Ah oui, donc là, c'est effectivement tendu. Alors
Oui, c'est ça.
comment ça se passe concrètement? Vous avez un emploi? Vous êtes en apprentissage?
Oui, je suis en apprentissage dans le commerce. Oui, l'emploi, ça se passe très très bien. Mais c'est surtout après pour le logement. Bon, moi, j'ai qu'une envie, c'est de partir.
Alors concrètement, l'apprentissage, ça va durer combien de temps?
Ça va durer encore toute l'année prochaine, jusqu'en juillet prochain.
Et
Oui.
qu'est-ce que vous espérez après? Qu'est-ce que vous
Mais
visez?
après, ben en fait, moi, j'aimerais pour septembre trouver un petit studio dans les Alpes-Maritimes.
Alors avant de
Pour
parler de ça, je parlais professionnellement. Quand
oui,
l'apprentissage sera terminé, qu'est-ce que vous
oui.
aimeriez?
Moi, après, j'aimerais être embauché donc dans en tant que technicien de radio.
Ah oui.
Oui, je suis passionné par la radio, oui. Et il y
Comment?
a une radio associative près de là où je suis actuellement et eux, ils seraient intéressés de m'embaucher.
Ben ça, c'est formidable.
Oui.
Si vous voulez bien m'en parler, quelle est la forme d'autisme dont vous souffrez?
Oui, je suis autiste Asperger.
Asperger, d'accord, c'est ça. C'est intéressant parce
Oui.
qu'on a assez peu de témoignages sur ce sujet-là. Il y a aussi beaucoup de fausses
Oui.
croyances sur les autistes. Les gens ne connaissent pas, savent pas, ils mélangent un peu tout. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un
Oui,
qui en parle comme ça.
Ah oui, c'est une forme légère de l'autisme, hein, oui.
Et donc, vous avez aussi d'autres compétences? Vous avez probablement.
Oui.
En quoi
Ben
vous êtes
moi,
très bon, par exemple?
ben moi, dans la radio, je m'y connais beaucoup.
Ouais.
Oui, dans l'informatique aussi. Oui.
Et comment est-ce que vous avez appris tout
Alors.
ça?
Ben, j'ai appris ça au fil du temps. En fait, quand j'étais plus petit, j'ai été dans une école bilingue et provençale dans le Var. Et on m'a appris en fait, il y a une animatrice de radio qui est venue faire un reportage et c'est là que ça m'est venu, cette passion.
Vous avez attrapé le virus à ce moment-là?
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est un virus contagieux, la radio.
Oui, c'est très contagieux, oui.
Mais c'est un beau virus, c'est bien. Je vous souhaite d'arriver à faire ça. Donc pour en revenir à ses grands-parents, au départ, là, il y a un an, quand vous êtes arrivé, comment ça s'organisait? Vous êtes absent toute la journée?
Oui, parce que soit je suis au travail, soit je suis au CFA.
Qu'est-ce que c'est le CSA?
Et le centre de formation, là où je fais les cours.
D'accord. Et donc,
Oui.
d'un point de vue purement matériel, c'est votre grand-mère qui s'occupe de vous nourrir, de votre linge, de tout ça?
Oui,
Oui.
c'est ça. Oui.
Donc ça,
Et
c'est
du
quand même,
coup,
faut quand même
oui.
le reconnaître que c'est du travail.
Oui, je sais, mais moi, je lui ai proposé plusieurs fois de m'en occuper, mais eux, ils veulent pas.
D'accord. Est-ce que l'ambiance entre eux, est-ce qu'elle est bonne?
Non, 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 pas du tout.
Ah
Ils
oui.
n'arrêtent pas de se disputer.
Et c'est peut-être ça
Oui.
le problème, c'est peut-être pas vous le problème, c'est ça. S'il n'y a pas
Oui,
d'harmonie
je sais,
entre eux, c'est
mais.
compliqué de prendre une place, quoi.
Oui, je sais, mais moi, après, je suis au milieu d'eux, tout seul,
Vous n'êtes pour rien, vous, dans
et
ces
c'est.
histoires-là. Ouais.
Oui, je sais, mais c'est assez dur de prendre des réflexions alors que des fois, je fais rien. Des fois, pendant 3 jours, ils ne se parlent pas et c'est très tendu.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, ça ne vous appartient pas, mais vous en faites vous en payez les pots cassés, quoi. Vous en payez le prix.
Oui,
Alors que c'est
et
pas.
ça me stresse après dans la journée quand
Ouais.
je me dis qu'est-ce qui va se passer ce soir, à quoi je vais avoir le droit.
Qu'est-ce qui l'énerve? Vous me parlez surtout de votre grand-mère. Votre grand-père, il est plus cool
Oui,
avec vous?
mon
Lui, ça
grand-père, il est
va.
plus cool, oui.
Et elle,
Moi, oui,
qu'est.
ben,
Ouais.
oui. Ma grand-mère, ce qui l'énerve, c'est tout ce que je fais, en fait. Par exemple, quand je vais au travail, ça l'énerve, ça la stresse.
Ah, c'est pas de
Oui, ça la
l'énervement,
stresse quand.
c'est de l'anxiété, ça,
Oui.
peut-être.
Oui, mais après, elle me dit pourquoi tu vas au travail, qu'est-ce que tu apprends. Par exemple, quand je m'habille, elle me dit pourquoi tu mets pas un autre habit. Moi, je préférerais que tu t'habilles comme ça, de telle façon. Après, quand je fais mes devoirs aussi, ça l'énerve. Elle dit qu'est-ce que tu fais, tout, parce que moi, c'est souvent sur l'ordinateur que je fais les devoirs. Et elle, après, ça l'énerve. En fait, elle croit que je joue quand je suis sur l'ordinateur, alors que non, je fais mes devoirs. Et du coup, après, elle est derrière mon dos. Elle rentre toutes les 5 minutes dans la chambre pour voir ce que je fais. C'est très stressant.
Je me demande en vous écoutant, Gaëtan, si elle n'a pas plutôt l'impression que vous êtes venu là pas pour lui tenir compagnie, mais pour être avec elle, quoi. Et que finalement,
Oui,
ce qui l'agace,
peut-être.
parce
En fait,
que. Ouais.
elle a aucune activité.
Mais c'est ça, j'ai l'impression que ça se passe très mal avec son mari. Elle n'a pas d'activité, peut-être elle s'ennuie un peu, et quand vous n'êtes pas là, ça l'agace, parce que c'est comme si elle avait besoin d'une compagnie, quoi.
Oui, ça doit sûrement être ça, parce que même mon grand-père, il a des activités. Il y a que elle qui n'a pas d'amis et
Ouais,
qui fait
mais
rien.
il y a un gros conflit d'intérêts, parce que là, vous n'êtes absolument pas là pour ça.
Oui, c'est pour ça que
C'est pas viable, mais
j'aimerais.
est-ce que
Oui.
votre mère pourrait pas lui parler, votre père à ce moment-là plutôt, parce que c'est sa mère.
Non, 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 ils sont fâchés et ma grand-mère, elle veut avoir aucun contact avec lui.
Même là, s'il y a quelque chose à gérer autour de vous.
Oui, même là, oui, elle veut avoir aucun contact.
Et vous, comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à lui dire, écoute, comment est-ce que vous l'appelez d'ailleurs?
Je l'appelle mamie.
Mamie, est-ce que vous arrivez à lui dire,
Oui.
écoute, mamie, là, c'est pas possible, quoi. Lâche-moi
Oui,
un
alors
peu.
j'ai déjà essayé, mais elle se braque. Elle se braque et elle se met en colère directement.
Mais donc c'est assez invivable.
Oui, c'est ça.
Il y a quelqu'un qui nous envoie un SMS en demandant si vous êtes renseigné pour trouver un foyer pour jeunes travailleurs qui serait moins cher qu'un studio.
Oui, alors je me suis renseigné, mais pour l'instant, sur Grasse, il n'y a pas de place.
Ah, c'est un manque de place. Ouais.
Oui. Parce que moi, il me faudrait quelque chose sur Grasse ou sur Nice pour pouvoir aller au travail facilement.
Alors avant de parler d'un studio, parce que j'imagine que financièrement prendre un studio tout seul à 19 ans, c'est pas
Oui.
évident. Est-ce que vous
Oui.
pourriez pas envisager les chambres chez l'habitant? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui proposent une chambre à des étudiants. Chambre indépendante avec une salle de bain, quelque chose
Oui.
comme ça. Est-ce que c'est un système qui pourrait vous convenir, ça?
Oui, moi, c'est un système qui pourrait me convenir, oui. Mais après, je sais pas sur quel site je pourrais trouver ça.
Alors déjà, première chose, est-ce que vos grands-parents vous laisseraient partir? Ou est-ce qu'il y aurait
Oui,
un... De toute
ben.
façon, vous êtes majeur, j'ai bien entendu, mais...
Oui, je suis majeur. Oui, ça risque d'être compliqué, ça. Mais après, si vraiment je veux partir, à mon avis, bon, ils me laisseront. Mais bon, ils s'énerveront un peu quand même.
Il faudrait leur expliquer, surtout à votre grand-mère, que c'est pas contre elle, mais c'est pour vous.
Oui.
Et qu'à un moment donné, il est normal que vous preniez votre envol aussi.
Ce serait ça le plus dur, oui, de lui expliquer.
Mais ça me
Mais.
paraît important de le faire dans le calme, parce que Je sais aussi que quand on a un syndrome comme le vôtre, on a aussi besoin de calme. Et que dès qu'on se stresse, les choses deviennent plus compliquées à gérer, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Parce que quand je vois qu'elle est énervée, moi, ça m'énerve encore plus.
Oui, parce que vous êtes comme une éponge.
Oui, c'est ça. Et ça m'angoisse énormément.
Mais peut-être pourriez-vous, à ce moment-là, lui écrire une lettre quand vous serez décidé à partir pour le faire calmement. Et lui expliquer juste que vous avez justement besoin de... Lui dire finalement ce que vous venez de me dire, que cette ambiance tendue, ce stress pour vous, c'est très négatif. Ça vous bloque.
Oui.
Et que c'est pas bon. Et que si vous voulez partir, c'est pas contre elle. C'est parce que vous avez envie... Vous allez avoir bientôt 20 ans. Et qu'à 20 ans, on vole de ses propres ailes. Et que c'est juste normal.
Oui, ça, à mon avis, ça lui ferait... Ça serait bien de faire une lettre.
Ça permet d'amortir la conversation, oui. De préamortir la conversation qui suivra, si vous voulez.
C'est ça, mais parce que oui, si je lui en parle directement, elle risque de très mal le prendre. Oui.
Et si elle s'énerve, ça va vous stresser. Si vous vous stressez, vous ne trouverez pas les mots qu'il faut et ça va tourner vinaigre, quoi.
Oui.
Alors après.
En plus, parce que récemment, je suis allé chez ma mère et quand je suis revenu, elle avait qu'une envie, c'était de me mettre à la porte.
Oui, non, là, il y a un problème de comportement, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si elle réglait ses conflits à travers vous aussi, quoi. C'est...
Oui, en fait, elle essaie de régler ses problèmes qu'elle a avec ma mère, avec moi.
Oui, mais ça, c'est, vous n'êtes pas là pour ça, en aucun cas, jamais.
Oui. Oui, c'est très problématique, ça.
Alors, pour en revenir à des choses très concrètes, vous me demandiez comment trouver une chambre chez l'habitant. Bah vous qui êtes bon en informatique, tout simplement, vous tapez « location chambre étudiant chez l'habitant dans la région que vous voulez » et il y a plein d'annonces qui apparaissent. Déjà, c'est aussi simple que ça. Il y a aussi, vous pouvez demander l'aide d'une assistante sociale.
D'accord.
Et puis, peut-être ce soir sur l'antenne, vous êtes du côté de Grasse, c'est ça?
Oui, je suis du côté de Grasse. Oui.
Ben, si jamais on a quelqu'un ce soir qui connaît ou qui pourrait vous proposer une chambre, à ce moment-là, on prendra les coordonnées et on vous les transmettra. Donc je vous rappelle, si vous êtes à l'antenne, si vous entendez Gaëtan et que vous avez une proposition à lui faire, s'il vous plaît, faites-le ce soir parce qu'on ne garde pas les coordonnées des gens dans les jours qui suivent. On n'a pas le droit de le faire. Donc s'il vous plaît, tous ceux qui sont à l'antenne, si vous voulez entrer en contact avec Gaëtan ce soir, demandez-le par SMS. Vous faites le 739-21 en commençant par le mot nuit et on transmettra, Hassan est avec moi, on transmettra à Gaëtan tous vos messages. On ne sait jamais, on peut lancer un appel.
On ne sait jamais, oui.
Mais je vous garantis que sur Internet, si vous mettez chambre étudiant, il y a beaucoup d'annonces aussi qui peuvent ressortir.
Oui.
Par le bouche à oreille, dans votre quartier aussi, vous mettez une petite annonce, vous demandez aux commerçants.
C'est ce que je vais faire aussi.
Les gens parlent beaucoup chez les commerçants. Vous savez, chez le boucher, chez le boulanger, on parle beaucoup. Et ils sont toujours au courant de tout.
Oui, en plus, j'ai une épicerie où je vais régulièrement, qui n'est pas loin.
Simplement, il faut que vous appreniez, Gaëtan, à vous mettre dans une bulle de calme et de confiance en vous.
Ça, c'est dur avec... Parce que des fois, en fait, quand je suis dans ma chambre le soir, et ben des fois, elle débarque sans frapper à la porte. C'est pénible, ça. Quand je veux être tranquille, et ben elle débarque.
Mais c'est surtout que ça ne se fait pas.
Oui, c'est ça.
Avec tout le respect qu'on lui doit parce qu'elle vous accueille et qu'elle s'occupe de vous, il y a quand même un comportement qui, moi, me paraît pas respectueux.
Oui, c'est... Moi je la supporte plus en ce moment.
C'est compliqué. Alors, c'est sûr qu'il y a peut-être un problème de génération, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a, me semble-t-il, un gros terrain de conflit familial et vous arrivez au milieu de tout ça. Et vous en faites un peu les frais. Et ça, c'est pas normal.
Oui, c'est très dur à vivre.
Et en attendant, tant que vous êtes chez elle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, essayez mentalement de vous créer une bulle. De vous créer un espace, vraiment un espace de sécurité dans votre esprit. Imaginez simplement que vous êtes dans une bulle qui vous protège et dans laquelle rien de négatif ne peut vous toucher. Juste ça.
Oui.
Et vous créez un espace comme ça en vous répétant intérieurement, même si tout ce qui est à l'extérieur reste à l'extérieur. Même si elle s'énerve, c'est pas à moi. Même si elle m'engueule, si elle a un comportement agressif, c'est pas à moi, je ne lui prends pas. Moi, je suis dans ma bulle et je reste calme.
Oui, Oui.
C'est une protection, une protection mentale qui est vraiment intéressante et qui fonctionne. Pour ne pas, oui, pour vous éviter d'être une éponge et d'absorber toute cette tension-là qui vous fait du mal.
En tout cas, oui, ça, c'est une bonne technique, oui.
C'est un travail mental. Juste, mettez une musique douce, reposante et créez-vous une espèce de bulle imaginaire. Et à chaque fois qu'il y a la moindre agression, pouf, vous rentrez dans cette bulle que vous seul connaissez, que vous seul voyez, mais vous êtes juste à l'intérieur zen, calme. Le reste, ça nous, c'est pas à vous. Tout ce qui est agressif, c'est pas à vous. Vous prenez pas. Ça glisse sur la bulle comme la pluie sur les vitres.
Oui, je vois, oui.
Et surtout, déculpabilisez-vous. Vous avez parfaitement le droit d'aller vivre votre vie, même si ça ne lui plaît pas.
Même si ça ne lui plaît pas, oui, j'ai le droit.
Mais c'est complètement normal. C'est très gentil de vous avoir accueilli dans un contexte familial où il n'y avait personne pour vous tendre la main. Ça, c'est une chose. Mais à partir du moment où ça ne se passe pas de manière harmonieuse, vous avez le droit à 19 ans, à 20 ans, de vous envoler, de prendre votre vie en main et de dire, voilà, moi, je suis grand maintenant, je pars. J'ai plein d'expériences à vivre.
C'est ce que je me dis. En plus, dans ma classe, je ne serai pas le seul. Il y en a d'autres aussi qui ont leur petit studio.
Et est-ce que vous ne pourriez pas envisager une colocation avec des copains?
Une colocation, oui, mais non, parce qu'en fait, ils sont du côté de Cannes.
Ils sont trop loin.
Ils ont leur apprentissage du côté de Cannes et moi, ce serait soit du côté de Grasse ou soit de Nice pour que je puisse me rendre à Roquefort-les-Pins.
Et puis quelque chose me dit que vous aimez bien votre indépendance aussi. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais. Oui.
Vous serez peut-être mieux plus tranquille, soit dans un petit studio, soit effectivement dans une chambre d'étudiant louée par quelqu'un.
Oui, ça, ce serait vraiment super, une chambre d'étudiant.
Où on vous respectera, on vous laissera votre liberté.
Oui.
Est-ce que vous êtes un garçon calme et organisé pour rassurer quelqu'un qui pourrait vous accueillir? Oui.
Oui, c'est ça. Je suis calme et organisé et je suis vraiment très discret.
Bon, ça c'est une très bonne chose. Qu'est-ce que vous aimez, Gaëtan, dans la vie en dehors de l'informatique?
Je reste surtout les après-midi où je travaille pas à écouter la radio et aussi à aller visiter des radios.
Quelle radio vous avez déjà visité?
J'ai déjà visité plusieurs radios dans les Alpes-Maritimes, des radios de Radio France, j'en ai visité énormément.
Quel est le métier qui vous intéresse le plus en radio? Parce qu'il y a plein de métiers dans une radio.
Oui, technicien et aussi chargé d'accueil.
D'accord. Est-ce que, sinon, si vous voulez, je travaille, mon réalisateur ce soir, c'est Andreas. Si vous voulez, je vire Andreas et puis je vous embauche à sa place, hein?
Non, il faudrait une formation quand même, avant, pour...
Andreas, tu vois, on va juste le former puis il prend ta place. Oh, ça le fait pas rire. Non, c'est chouette d'avoir une passion comme ça. Et je vous souhaite vraiment d'arriver à... La radio, vous aimeriez en faire carrément un métier?
Oui, j'aimerais vraiment faire un métier, oui.
Ben, je vous souhaite vraiment que ça marche, mais n'hésitez pas à mettre les pieds dans la porte. Allez appeler les gens des radios locales, allez leur demander si vous pouvez venir les rencontrer.
Oui, je fais déjà du bénévolat à Agora Côte d'Azur.
Et ben ça, c'est chouette.
Oui.
Et je suis persuadée que vous trouverez votre place et une manière de vous construire une vie sympa et agréable.
Oui, c'est ça, moi, c'est ce qui me fait avancer chaque jour.
Les projets, les envies?
Oui, c'est ça, les projets, les envies et le bénévolat que je fais.
Vous avez des frères ou des sœurs, Gaëtan?
Oui, j'ai une sœur. Elle a 17 ans et elle est en apprentissage, elle aussi, mais pas dans les Alpes-Maritimes. Elle est dans le Var.
Et comment ça se passe avec elle? Vous êtes un peu en relation?
Pas beaucoup. Et elle a un appartement pour elle. Elle est avec son copain.
Déjà?
Oui, déjà.
Mais dis donc. On a quelqu'un qui envoie aussi un mail en parlant de possibilité de chambre d'étudiants dans un CROUS.
Oui.
Vous êtes renseigné là-dessus?
J'ai jamais entendu parler de CROUS.
Alors le CROUS, je n'ai pas en tête le nom exact de cette abréviation. Mais ce sont... regardez sur Internet, CROUS, vous verrez. Tout ce qui concerne les étudiants, en fait.
Oui.
Hein?
Je vais
Il y a
regarder.
beaucoup d'informations. Il y a beaucoup d'informations pour les étudiants dans les dans partout, en fait. Finalement, je suis en train de réaliser que tapez sur vous qui êtes bon en plus en informatique.
Oui.
Il y a plein de moteurs de recherche et vous allez trouver champs, partage, étudiants, possibilités, aides financières aussi. Et n'hésitez pas à aller voir la mairie, aller voir les assistantes sociales
Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais
qui pourront vous dire tout ce,
prendre
voilà.
rendez-vous.
Et puis surtout, préparez le terrain en douceur et croyez en vous.
Ça va être ça le plus dur, de préparer le terrain. Oui.
Non, parce que s'il faut vraiment vous dire que c'est votre droit le plus strict.
Oui.
En étant tout à fait reconnaissant de ce qu'elle a fait pour vous, en la remerciant, mais en lui disant, voilà, maintenant je vois bien que c'est tendu et que de toute façon, moi, il est temps que je prenne mon envol.
C'est ça, il est temps
On ne peut pas
que
empêcher un
je
jeune homme
parte.
d'aller prendre
Oui.
son envol et au contraire, elle devrait vous y encourager même. Mais après, voilà, si elle se sent seule et qu'elle a besoin de quelqu'un, c'est une autre histoire, c'est pas la vôtre.
Après, j'avais discuté avec mon père aussi, et quand il était petit, quand il a eu après mon âge, ça a été dur de partir. Il paraît qu'elle a été dure.
Mais c'est ça, elle ne voulait pas le laisser partir. Et
Oui.
ce que j'entends dans cette histoire-là, c'est que cette dame, elle soigne une blessure qui lui appartient, comme ça. Elle a probablement une blessure d'abandon. Elle veut pas qu'on la laisse, mais c'est pas le rôle ni de son fils ni de son petit-fils de rester là pour lui tenir la main.
Oui, je sais.
Eh oui.
Après, elle a eu beaucoup de soucis quand elle était petite, apparemment.
Oui, j'imagine que si elle est en souffrance et qu'elle a une vie compliquée. Et c'est très triste, mais il faut qu'elle soigne ça de son côté, surtout qu'elle est quand même encore jeune. Mais
Oui, c'est
c'est
ça.
pas à son petit-fils de réparer ça. C'est pas possible.
Oui, et ça, il va falloir que je prépare comme ça, doucement,
Alors on a Laurence qui nous dit,
mon envol.
est-ce qu'un intermédiaire pourrait parler à sa grand-mère? Mais j'ai pas vraiment l'impression que quelqu'un pourrait faire ça pour vous, là.
Non.
Non.
Non, moi j'ai pas d'intermédiaire, qui pourrait le faire.
C'est pour ça que je vous conseillais de faire d'abord une lettre,
Oui.
tout en douceur, et peut-être déjà pourriez-vous lui dire dans la lettre que vous serez bien sûr là, que enfin, vous continuerez à être en contact avec elle, que vous la verrez avec plaisir régulièrement, que vous n'êtes pas dans une espèce d'optique de vengeance ou de couper des ponts, mais juste de vous envoler. Parce que c'est normal.
Oui.
Hein?
Oui, ça je sais, c'est normal et j'en ai besoin,
Soyez dans ce courrier
physiquement pour.
le plus positif possible. Pas dans le
Oui.
règlement de compte, pas dans les reproches, parce que ça va envenimer le feu. Mais simplement en lui disant, voilà, je voudrais te prévenir doucement que j'envisage de prendre ma vie en main, de prendre mon envol, et que donc dans quelques jours, dans quelques semaines, je vais m'en aller. Et
Oui,
on en
ça
parle quand
je.
tu veux. Mais vous voyez, à commencer à amener les choses doucement sur le tapis.
Oui, c'est ce que je vais faire, parce que oui, ce serait la meilleure solution.
Et croyez en vous, Gaëtan, vous avez une belle vie qui vous attend.
Oui, des fois j'ai un peu du mal à croire en moi.
Oui, j'entends ça. Mais je suis sûre que vous avez plein de potentiel en vous, plein de capacités.
Oui,
Et vous savez
ça
quoi?
j'en ai, oui.
Dans cette bulle de calme que vous allez vous créer, vous allez mettre plein de confiance aussi à l'intérieur.
Oui,
D'accord? Ah,
d'accord.
Crous, voilà, merci. Quelqu'un me dit Crous, c'est Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Voilà, je n'avais plus la phrase en tête. Crous,
D'accord.
Centre régional des
Merci.
œuvres universitaires et scolaires. Gaëtan, merci pour votre appel.
Oui, ben merci à vous pour votre aide. Merci
Prenez bien
beaucoup.
soin de vous, je vous embrasse.
Merci.
Au revoir.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
À passer ensemble sur cette libre antenne. N'hésitez pas à continuer à nous appeler pour prendre la parole tout au long de l'émission. Vous faites le 39-21 et vous tomberez ce soir non pas sur Amandine, comme je vous l'ai dit bêtement par habitude, mais sur Thomas. C'est Thomas et Hassan qui m'accompagnent ce soir et je les en remercie. 39-21, donc, pour appeler le standard d'Europe 1 et venir me parler en direct sur cette libre antenne. Et pour participer par SMS comme chaque soir, vous faites le 7-39-21 en pensant bien à commencer par le mot nuit. Et puis je vous rappelle que demain soir dimanche, je vous propose une libre antenne spéciale autour du thème de la dépression. Si vous êtes en plein dedans, ne restez pas seul, venez en parler demain soir avec nous. Si vous êtes passé par là, si vous avez réussi à redresser la tête, venez nous raconter comment l'expérience de chacun est toujours utile aux autres. La dépression, parlons-en librement demain soir à partir de 23h sur la libre antenne. Vous pouvez déjà vous inscrire en appelant le 3921 et en précisant que c'est pour demain, pour l'émission Dépression. Vous pouvez aussi vous inscrire par mail libreantenne@europe1.fr à l'attention d'Amandine, d'Hassan ou de Thomas. Merci beaucoup.
La libre antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et nous avons reçu beaucoup de messages, beaucoup de SMS pour Gaëtan et je vous en remercie. Thomas se charge de lui transmettre tout ça pour vous. Et c'est maintenant Anaïs que j'accueille avec grand plaisir. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue.
Merci. Alors, moi je vous écoute depuis le début. Et avant tout, je voudrais vous dire toute mon admiration à vous, l'équipe de la Libre Antenne, pour toute la bienveillance et la patience dont vous faites preuve envers les auditeurs. Et puis, je voudrais remercier les auditeurs qui laissent des témoignages, ceux qui appellent. Et vous allez comprendre pourquoi aussi. Je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui écoutent mais n'appellent pas.
C'est vrai que tout ça, c'est une grande famille et c'est tout ça qui fait la Libre Antenne.
Exactement.
Merci.
Alors, les choses sont très bizarres parce que j'ai souffert toute ma vie, mais peu importe. Mais il y a 21 ans, j'ai perdu mon papa, il s'est suicidé. Et là, ma vie, outre le choc de... on pense que c'est un deuil, qu'on va le surmonter, puis dans ces cas-là, on est entouré, etc. Et puis, le temps passe et la mort, elle est un peu tabou, déjà de notre époque, alors le suicide, je ne vous en parle pas. Mmh. Et puis, vous embêtez les gens à en parler. Et puis, il y a toujours ce crochet que représente le point d'interrogation de pourquoi.
Il y a un malaise quand on mentionne le suicide.
Oui, en plus. Ouais. Oui, toujours. Ouais. Toujours. Et on dérange, quoi, à parler. Il ne faut plus en parler. Il faut aller vite dans ce monde, quoi. Il ne faut pas ressasser. C'est un peu la chanson de la petite Angèle, quoi. On n'a plus droit au spleen, on n'a plus droit à aller mal, etc.
En fait, ce qui se passe, c'est que les gens sont tellement mal à l'aise quand on parle de deuil, de mort ou de suicide, qu'ils ne savent pas quoi dire. Et souvent, je leur dis, mais quand tu ne sais pas quoi dire, ne dis rien, simplement sois là. Prends-lui la main, oui. Et sois là, c'est tout. On n'est pas obligé de dire quelque chose si on n'a rien à dire. Mais juste être là et laisser l'autre poser sa tête sur son épaule, quoi.
Tout à fait. Et justement, alors, depuis le suicide de mon papa, j'ai tenu le coup, j'étais déjà mariée, j'ai 54 ans, hein, il y a 21 ans de ça. Je suis toujours avec mon mari, nous avons 3 enfants. J'ai tenu le coup plus ou moins bien la première année, petit à petit. Bon, j'avais des arrêts maladie, mais je repartais au boulot, etc. Et un an pile après, j'ai eu un cancer fulgurant. Et à la suite de ça, donc depuis 20 ans, je suis passée 23 fois, comme on dit vulgairement, sur le billard. Mmh. J'ai eu 23 interventions chirurgicales, avec 2 cancers. Alors, quand j'ai eu mes cancers, tout le monde est revenu vers moi, alors que je ne souffrais pas, Sabine. J'étais simplement très fatiguée, je n'avais pas peur. Je n'avais vraiment pas peur, j'étais sûre qu'on allait s'en sortir, on en parlait avec les enfants, on leur cache rien, donc on leur avait tout dit, etc.
C'était des cancers de quoi?
Alors j'ai eu un cancer du col de l'utérus,
oui.
Et mélanome malin.
D'accord.
D'ailleurs c'est un de mes enfants qui m'a sauvée parce que c'était sous le menton et moi je ne les voyais pas. Et lui il en avait un sur la joue Et donc, je l'avais toujours élevé en lui expliquant qu'il fallait qu'il surveille en grandissant la couleur, la taille, etc.
Et c'est lui qui vous a surveillé ?
Oui. Oui, c'est lui qui m'a donné l'ordre d'aller chez le dermato et il s'est avéré que on les a enlevés par prudence et qu'effectivement ils étaient malins. Mmh. Et donc là, les gens étaient revenus vers moi, alors que entre guillemets, je n'en avais pas besoin pour ça. Mmh. Je vous dis, à part la fatigue, ça allait très bien. Ce qui n'allait pas, c'était mon moral, mais toujours avec lié à la mort de papa, quoi. Mmh. Et le temps a repassé et les gens sont repartis. Alors le cancer, je ne vais pas dire que tout le monde est revenu, parce que ça, c'est encore un autre problème. C'est encore un
ça
autre
fait peur aussi, ça. La maladie, voilà. Fait peur.
Tout à fait, comme si c'était contagieux. Mais il y a un côté comme ça aussi dans le suicide. On a peur. En plus, il se trouve que j'ai perdu 6 mois après la mort de mon papa. Un de ses frères s'est suicidé aussi. Donc, ça faisait lourd, quand même. Et puis, depuis tout ce temps, au fur et à mesure, je suis devenue... j'étais employée. Et puis, on m'a reléguée au statut de travailleur handicapé invalide. Mais je suis devenue fibromyalgique. Et donc, je ne peux plus aller travailler. Ce qui fait, d'où le fait aussi que toutes les nuits, je vous écoute, parce que je ne peux pas dormir, quoi. Mmh. Et donc, toutes les nuits, dans 8 appels sur 10, je me reconnais. Il y a toujours quelque chose. On dit, mais j'ai ressenti ça, j'ai vécu ça. Et alors, on pleure, on compatit. Puis on se dit, mais moi, je vais appeler parce que ça va faire du bien et tout. Et je n'ai jamais trouvé le courage, jamais.
Ah ben, je suis contente que vous l'ayez fait ce soir.
Mais c'est assez étonnant, les circonstances, parce que je me disais, mais non, lui, c'est pire que moi. Moi, je vais pas appeler. Lui, c'est pire. Il a raison, il faut laisser la place à ceux dont c'est pire, la souffrance est pire.
Mais vous savez, la Libre Antenne, c'est aussi un endroit sur lequel on peut parler de tout. Pas forcément que des souffrances. Il n'y a pas de pire ou de moins pire. On est libre de parler de tout. C'est juste un reflet de la vie.
Tout à fait, mais on le sait quelque part. Mais en même temps, on a peur d'être égoïste, quoi. Je savais depuis une semaine, ça fait 3 semaines que je ne me lave pas. J'ai honte de ce que je vais dire, j'ai très très honte. Que je vais très 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 mal. J'ai pas la force de me laver, j'ai pas la force de me lever, j'ai pas la force de manger, rien. Et je savais que ce week-end, je serais seule 4 jours. Et j'avais décidé, c'est le week-end ou jamais où j'appellerai Sabine. Et puis, hier soir, donc j'avais prévu de vous appeler, mais j'ai fait comme d'habitude. J'ai dit, maintenant, il faut laisser la place à ceux qui en ont vraiment besoin. Et puis, il y a eu cette première dame, j'ai oublié son prénom, qui a appelé pour sa fille, si courageuse, qui a été amputée. J'ai oublié son prénom.
C'était pas Fabienne, c'était... Oui, j'ai un trou de mémoire là tout de suite. Oui, mais je vois qui vous voulez parler.
Donc, qui était déjà elle-même une femme fabuleuse, une maman fabuleuse, fille de militaire. Mmh. Elle disait avoir puisé notamment probablement une partie de sa force dans le statut de son papa, dans son éducation. Et puis elle disait toute l'admiration pour sa fille. Et puis, alors ce que je vais dire va peut-être révolter beaucoup, beaucoup d'auditeurs, mais je me suis mise à pleurer d'émotion, d'admiration et en même temps de fureur contre cette femme. Qu'elle me pardonne si elle m'entend ce soir. Et c'est ça que je voulais expliquer. C'est que je me sentais en fait tellement mal au fond de moi que tout ce qu'elle disait, on le sait. Elle parlait de volonté. Elle disait quand on veut, on peut, que son père lui avait dit des tas de choses. Déjà, elle était aussi Elle a expliqué qu'ils étaient une petite famille, mais qu'ils se soutenaient. Moi, je n'ai personne. Ma mère ne m'a pas voulu, ne s'est jamais occupée de moi. Je ne la vois pas. J'ai cru la récupérer, entre guillemets, suite à la mort de papa, mais ça n'a duré qu'une année. Et puis, depuis, je ne l'ai pas revue, elle ne veut pas me voir. Donc moi, ma famille, c'est vraiment mon mari et mes enfants. C'est tout.
C'est déjà une chance, Anaïs, quand même.
Oui,
vous savez,
oui, oui, je le sais.
Même si le noyau est petit, il est là, il est solide.
Oui, mais je voudrais, moi, je voudrais dire à quel point aussi, quelquefois, quand on a mal, moi, vous savez, on dit... moi, j'attends de toucher le fond de la piscine. Or, je crois que je l'ai touché depuis longtemps. Je crois que j'ai atteint le béton depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? J'arrive plus à remonter. Et tout ce qu'elle disait, tout ce qu'on... certains témoignants, je sais pas si ça se dit, certains témoins dans votre émission, disent... il suffit de le vouloir. Il y a aussi cette femme alcoolique qui s'en sort tellement bien. Cette femme de Toulouse, c'était merveilleux comment elle a, du jour au lendemain, elle a décidé que sa vie changerait, etc. Elle vous a rappelé il y a quelque temps. Enfin, c'est pas vous, c'est pas le week-end, c'est la semaine. Elle a fait changer sa vie en 4 mois, quoi. Mmh. Elle est passée d'alcoolique malade à tout changer, à se réinscrire sur le net pour faire des rencontres et tout. Et tout ça, je le sais au fond de moi-même. Il faut faire comme ça, si tu veux, tu peux, etc. Et je voudrais dire des fois aussi aux gens qui appellent, et quelquefois même vous, sans le vouloir, bien entendu que c'est votre rôle de parler comme ça, mais combien ça peut... quand on n'est pas bien et qu'on vous écoute, combien ça peut désespérer encore plus d'entendre ça, parce que on sait tout ce que vous dites, on sait que c'est cela qu'il faut faire, mais on n'en a pas la force, on n'en a pas la ressource. Et combien ça peut quelquefois désespérer encore plus. Et c'est-à-dire qu'il y a des nuits où, après votre émission, on se dit, demain matin, là je vais dormir et demain matin, je vais visualiser, je vais m'endormir en visualisant et demain matin, je vais me lever. Et demain matin, je vais me laver. Et demain, je vais faire une petite chose et après-demain, une chose en plus. Mais il y a aussi des soirs où il y a le générique de fin. Et puis on pleure tout le reste de la nuit parce qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'en a plus la force. Et on pense soi-même au pire, quoi. Et là, en ce moment, j'en suis là, quoi. Et donc, vous comprenez ma réaction hier soir, ma réaction, le côté négatif contre cette maman. C'est-à-dire que je me disais, mais qu'est-ce que c'est facile de dire que sa fille est formidable, qu'il suffit qu'elle le veuille pour qu'elle le peuve, etc.
Alors,
moi,
attention Anaïs, il y a aussi une interprétation parce que vous êtes en souffrance en ce moment. Cette dame a aussi dit à quel point elle a souffert, elle était en état de choc quand sa fille a été amputée. Elle a aussi dit le combat pour remonter la pente. C'est pas parce qu'elle a raconté que le positif hier que ça a été si facile pour elle. Loin de là.
Ah ben, de toute façon, si j'ai bien compris... Elle a dit quelque part que ça a été plus dur pour elle que pour sa fille elle-même.
Pas vraiment plus dur, mais ça a été un autre deuil à faire pour elle aussi, bien sûr.
Voilà, d'une autre manière, oui. C'est-à-dire qu'il est vrai qu'en tant que maman, on préfère souffrir soi que de voir souffrir son propre enfant. Oui. Donc elle avait une sorte de double peine en tant que maman. Oui. D'ailleurs, et une forme d'impuissance, parce que peut-on faire, quoi Et elle ne pouvait pas non plus, je comprends, donc maman, elle ne pouvait pas tomber. On se doit d'être là pour cet enfant. Mais moi, je ne suis même pas là quand mes enfants ont besoin. Donc je me suis culpabilisée hier, mais...
Et puis, ce que j'entends, si je peux me permettre, Anaïs, c'est que Vous auriez peut-être aimé aussi qu'une maman parle de vous comme ça.
Oui. Oui.
Ça aussi, c'est, ça fait...
Oui, j'étais un peu jalouse.
Mais je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est rare aussi d'avoir une maman qui est aussi dithyrambique sur sa fille. Et toutes les femmes qui n'ont pas eu une maman comme ça, et Dieu sait qu'il y en a, ont un petit pincement au cœur en se disant « J'aurais tellement aimé que ma maman parle de moi comme ça. » Mais bon. Vous savez, pour en revenir à ce que vous dites, je comprends parfaitement votre ressenti quand vous nous écoutez. Mais vous devez comprendre aussi qu'on ne peut pas résoudre les problèmes des gens profondément dans une émission de radio comme ça, en une demi-heure de conversation à l'antenne. Et c'est bien pour ça que souvent, on est un petit peu obligé de vous conseiller d'aller voir quelqu'un pour travailler sur le problème, sur la blessure. Parce que forcément, en quelques phrases, on ne peut que survoler un problème et vous encourager à aller mieux, mais on ne peut pas faire une thérapie et enclencher une thérapie comme ça.
Oui, mais justement, je voulais témoigner pour les gens qui, comme moi, par moments, sont désespérés à la suite de l'émission. Et leur dire que faut laisser passer une émission, deux émissions, trois émissions, et puis qu'il y aura une émission, ça fera un peu moins mal, et puis on va se relever, et puis on va pas refaire grand-chose, mais on va se relever, et puis on va refaire semblant d'aller bien pour les autres, quoi. Ou d'aller mieux, entre guillemets. Parce que dans mon cas, j'étais suivie avant la mort de papa, suite à mon enfance très douloureuse, parce que maman traitait mon papa comme elle me traitait moi. Et elle détestait, elle était jalouse de l'amour que papa me portait. Elle nous traitait pareil, c'est-à-dire que si on faisait blanc, elle aurait voulu noir, et si on avait fait noir, elle aurait voulu blanc, quoi. Et symboliquement, pour moi, c'est atroce ce que je vais dire, mais c'est mon ressenti. Quelque part, elle lui a mis la corde au cou, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, tout à fait.
On dit qu'un mot peut tuer, et oui, ma mère m'a tuée quelque part, depuis toujours. Et donc, j'étais suivie à la mort de papa. J'étais en plein travail psychothérapique moi-même, quoi. Et malgré ça, j'arrive pas à me relever. Malgré ça, j'y arrive pas. Et je me désespère. Et j'ai essayé la méditation, j'ai essayé un tas de choses. Et je n'y parviens pas, quoi. Et j'ai l'impression d'être au bout du rouleau moi-même. Et en plus, comment dirais-je, non seulement je souffre, mais en plus je fais souffrir ceux qui me sont le plus chers. C'est-à-dire qu'ils souffrent de me voir, de ne pas me voir, entre guillemets, c'est-à-dire de voir que je n'ai pas bougé de la chambre pendant trois semaines, etc. Ils ne disent rien. Mais en même temps, j'ai honte aussi. La honte, c'est... Je sais pas. C'est atroce, la honte, quoi. Ça fait mal, la honte. Et en plus, cette maman aussi, elle parlait de... Elle disait... elle parlait du handicap de sa main, de la main de sa fille, et la main, elle disait, ça se voit. Et alors, c'est une chose aussi qui m'a interpellée, parce que moi, j'ai reçu... de la part de la CPAM, il y a au bout de quelques années, sans que je le demande, j'ai reçu une carte de priorité, enfin de stationnement et de priorité d'invalide. Parce que dans les files d'attente, je fais des malaises et tout, de toute façon, je suis devenue agoraphobe. Eh bien, c'est aussi atroce que ça ne se voit pas. Parce que je suis encore jeune, je suis encore pas trop mal fichu. Et quand je dois me rendre quelque part en voiture et que je stationne sur une place handicapée, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes. Et en général, ce ne sont pas des jeunes, ce sont des gens d'un certain âge qui s'arrêtent. Souvent, c'est la femme des piétons qui s'arrête. Et la femme vient vers moi, mais agressive la plupart du temps, en me disant, vous savez où vous vous carrez ici? Oui, madame, bonjour. Oui. Et j'ai une carte handicapée. Et on vous regarde la tête aux pieds. Elle dit, oui, c'est ça. Vous êtes aussi handicapée que moi.
La bêtise et le manque de bienveillance, hein, c'est terrible.
Oui. Et quelque part, et ben dans ces cas-là, c'est j'ai la réaction inverse de la maman hier. C'est-à-dire que moi, ben, j'aimerais bien que ça se voit. Avoir, et pourtant, je souffre physiquement. Il y a des fois où je boite, etc. Mais je me dis, eh ben là, j'aurais un truc, un bras en moins, ou une, que sais-je, une prothèse ou quoi. Eh ben, on m'embêterait pas.
Il y aurait plus de compassion.
Voilà, tout à fait, oui. Tout à fait. Et mais la connerie humaine, elle va se loger dans des trucs. C'est quand même atroce de se dire, ben, je voudrais qu'on m'arrache un bras pour qu'on me foute la paix, quoi.
Et pourquoi tout ça? Parce que les gens sont dans le jugement avant même de poser la moindre question. Ils jugent sans savoir. À la limite, qu'ils vous demandent, est-ce que vous avez vraiment un problème, si ça les intéresse? S'ils veulent se mêler,
oui,
qu'ils ne regardent pas, qu'ils posent la question.
En plus, vous êtes on vous suspecte, voire on vous accuse d'avoir truandé pour avoir une carte, ou que votre carte est fausse. Enfin, donc, c'est encore une peine à la peine, quoi. Et tout ça, oui, parce qu'on est dans un monde de comment dire, de réflexe idiot, quoi. Je me fie à ce que je vois, quoi.
On est dans un monde qui est gouverné par la peur, en fait. Chacun a tellement peur de l'autre, peur de tellement de choses, que ça crée une agressivité quasi quotidienne.
Oui, mais s'il savait ce que ça fait, quand on se prend ça dans la figure... ça fait mal. Et la souffrance, moi, c'est-à-dire que moi, j'ai la... Enfin, je crois que tous ceux qui vous appellent souffrent, et physiquement, et psychologiquement. Je ne fais pas grande différence entre les deux souffrances. La seule différence que je fais, c'est que la souffrance psychique, elle peut être tellement pire que la souffrance physique. Mmh. Et Dieu sait que j'ai souffert physiquement, et que je souffre encore physiquement, mais je préférerais encore souffrir beaucoup plus physiquement, mais que ma souffrance psychologique s'arrête, parce que ça ne s'arrête pas, ça ne se contrôle pas. On peut prendre des traitements, quoi, mais quand votre cerveau il rumine, il dort pas, il se calme pas, c'est pire que la souffrance physique, quoi. C'est pire.
Est-ce que vous permettez, Anaïs, qu'on parle un petit peu de votre papa?
Bien sûr.
Quel âge avait-il quand il est parti?
Il avait 48 ans. 58 ans.
58 ans. Comment est-ce que vous l'avez appris?
Oh, j'ose pas le dire parce qu'on va me prendre pour une idiote. Un dimanche soir, nous étions avec nos enfants en train de regarder la télé en hiver. Et puis, je suis allée à la cuisine pour faire préparer le repas. Et j'ai envoyé les gosses à la douche et préparer le repas pendant ce temps-là. Parce que j'étais assez stricte sur les horaires quand ils étaient petits. Et pour que l'on puisse dîner ensemble. Et puis, chacun retournait au travail et à l'école le lundi. Et tout d'un coup, j'ai eu un flash, mais j'ai toujours dit à mon mari, c'est la seule personne à qui je l'ai dit, et j'ai toujours ressenti. J'avais dit à mon mari quand je l'ai connu, je dis, tu vois, parce qu'il avait trouvé mon père extraordinaire. Et mon père lui avait dit, ben, j'ai un enfant de plus maintenant, que tu es là, bienvenue, je suis fière de t'avoir. Et moi, il m'avait dit, je suis fière de l'homme que tu aimes, et je suis fière de la façon dont vous vous aimez.
C'est formidable, ça.
Oui, oui. Et quand il ne pensait pas les choses, il ne les disait pas. Donc, je sais.
Donc, ces mots-là avaient de la valeur.
Oui, tout à fait. Mmh. Et donc, j'avais dit à mon mari, ben, tu vois, profite-en bien de mon papa, parce que... et d'ailleurs, il l'appelait papa. Et c'est... naturellement, il s'est mis à l'appeler papa, mon mari. Et je lui dis, dès que je l'ai connu, je lui dis, profite-en bien, parce que on va pas le connaître. Tu ne vas pas le connaître longtemps. Il m'a dit, mais pourquoi? Je dis, parce que il va se foutre en l'air, pardon pour l'expression, ou bien il aura un accident, mais ça sera un suicide, qui sait. Ça, comme mon mari m'a répondu, mais non, Anaïs, c'est pas possible. il aime trop ses enfants, ok. Ta mère, c'est pas ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est pas heureux avec ta mère. Mais il vous adore. Donc il vous ferait jamais ça. Pas cette souffrance-là. Il préférera souffrir que de vous faire souffrir. Et je lui ai répondu, écoute, chérie, depuis que je suis née, enfin, du plus profond de moi-même, et du plus loin que je me souvienne, je ressens ça. Et puis bon, on a dû en parler deux fois, c'est tout. Et puis ce dimanche-là, je suis allée dans la cuisine préparer le repas. Et tout d'un coup, j'ai vu mon père pendu. Alors, je ne demande pas aux gens d'y croire ou pas, c'est comme ça. J'ai vu mon père pendu. Et je me suis mise à pleurer. Et mon mari est venu chercher quelque chose dans la cuisine et m'a trouvé en pleurs. Il m'a demandé ce que j'avais, j'ai dit c'est papa. Or, son papa avait 20 ans de plus était très très malade et devait décéder au moment où on s'était connus. Alors, et on les appelait tous les deux papa aussi d'ailleurs.
Et il a pensé que c'était le sien.
Exactement. Oui. Alors, il me dit, mais tu sais, ma chérie, il a déjà volé 20 ans à la vie, c'est fabuleux, quoi. Je vais l'appeler et puis je vais lui parler. Je dis, mais c'est pas ton papa. Il me dit, comment ça? Je dis, c'est le mien. Demain, il sera plus là. Il va se pendre. Alors, il m'a dit, bah, appelle-le. Je dis, mais je ne peux pas, parce que, bon, moi, j'habite une région, il y habitait, mes parents habitaient à 400 kilomètres, et c'était l'hiver, un sale hiver en plus. Et je lui dis, mais je ne peux pas lui téléphoner. Maman écoute nos coups de fil, par jalousie, et je ne pourrais pas lui parler. Et s'il va mal, s'il a besoin de parler, il ne pourra pas le faire. Donc, parce qu'il faut dire aussi que moi, j'ai fait 8 tentatives de suicide. Et il m'a sauvé 6 fois, lui. Moi, ma mère, à chaque fois, les 8 fois, je me suis pris une gifle.
Oui.
Vous voyez la différence, ça explique beaucoup de choses. Et donc, je lui dis, donc, je ne peux pas l'appeler. Il me dit, bah, prends la route. Et puis... va passer une semaine là-bas, mets-toi en arrêt maladie et puis passe une semaine près de lui. Je lui dis, mais je ne peux pas, j'ai trop de travail. Et puis là aussi, maman va être derrière notre dos et je ne pourrai pas lui parler. Et puis à la limite, il ne voudra peut-être pas se confier à moi parce que on a nos propres soucis, il ne voudra pas m'accabler, etc. Si je ne suis même pas sûre du fait qu'il se rende compte qu'il va le faire. Je ne suis même pas sûre qu'il en ait conscience au moment où je te parle. Bon, puis la soirée est passée comme ça. J'ai pris sur moi pour les enfants. La nuit, je n'ai pas dormi. Le lendemain matin, je me suis rendue au bureau. Et puis, à 9h30, j'ai appelé mes parents. Sous prétexte de leur souhaiter une bonne, de savoir comment ils avaient passé leur week-end, je suis tombée sur ma mère et j'ai attendu qu'elle ait fini de parler d'elle. Et puis je lui ai dit, bah, écoute, peux-tu me passer papa? Elle m'a dit, écoute, j'étais fatiguée, je l'ai entendu se lever, mais je ne me suis pas levée en même temps que lui. Ils étaient en vacances cette semaine-là. Et. Mais je me suis levée il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'il s'est lavé, qu'il a pris son petit déjeuner, mais je ne le trouve pas. Et moi, j'ai vu où il était caché. Et je ne me fais pas confiance, donc je n'ai rien dit. J'ai dit à ma mère, oh, il doit être parti voir les copains, les voisins, profiter qu'il a un peu de temps libre, mais t'inquiète pas. Pour tes bons repas, il va revenir ce midi, je rappellerai. Et on s'est quitté comme ça. Et à 10h15, j'ai eu un grand crack dans le cou. Et d'ailleurs, parmi toutes les interventions chirurgicales que j'ai eues, Il se trouve que j'ai eu deux hernies cervicales. Allô?
Oui, je vous écoute.
Pardon. Et c'est incroyable, il s'est pendu et quelques années plus tard, moi, j'ai développé deux hernies cervicales et j'ai dû être opérée de ça avec greffe osseuse, arthrodèse avec greffe osseuse, quoi. Et donc à 10h15, eh bien, j'ai eu un grand crack dans le cou. Et j'ai dit à ma voisine de bureau, qui connaissait d'ailleurs mon parce que tous mes amis adoraient mon père. Non seulement le trouvaient très beau, mais malgré la différence d'âge, je disais, mais c'est un homme extraordinaire, d'une tendresse, d'une intelligence, d'une ouverture d'esprit incroyable. Et elle me disait toutes, qu'est-ce qui va mal avec ta mère? Qu'est-ce qu'ils sont mal, comment dit-on? Voilà, tout à fait, parce que même physiquement, quoi, ma mère a des très, très, très acérés, très. Alors que mon père était plus en rondeur, plus en douceur, plus souriant, etc. En plus, c'était un bel homme. Et donc, à partir de 10h30, j'ai fait bis, bis, bis sur le téléphone. Et j'ai dit à ma voisine du bureau, bah, tu vois là. J'arrive pas à voir ma mère. Ça sautait tout le temps occupé. Je lui dis, bah, tu vois, là, ma mère, elle appelle le médecin pour qu'il vienne. Elle vient de le découvrir. Là, j'ai tout raconté, là, les pompes funèbres, etc. Et puis, entre deux bis, à 14h30, j'ai eu une de mes belles-sœurs qui m'a appelée. Et je lui dis, on va l'appeler Caroline. Je dis, ah, Caroline, tu m'appelles parce qu'un grand malheur est arrivé. Elle me dit, mais Anaïs, comment sais-tu? Je dis, mais réponds-moi vite, réponds-moi. C'est papa, n'est-ce pas? Il est plus là. Il a fait une bêtise, entre guillemets. Elle me dit, mais comment peux-tu savoir? Ta mère ne l'a dit à personne, elle m'a appelé pour que je vous le dise, elle n'a pas la force de vous le dire. Et alors là, ça a été fini, quoi. Là, on m'a emmenée au service médical de ma société. On a appelé mon mari. Enfin, bon, je ne raconte pas la suite, quoi. Et voilà comment je l'ai appris. D'accord.
Mais vous savez, là, vous, effectivement, dans votre histoire à vous, il y a beaucoup de détails. Mais si vous saviez le nombre de gens qui racontent ces choses-là maintenant, qui osent le dire et qui sentent quand quelqu'un de proche s'en va. Qui savent, qui disent, voilà, j'ai senti quelque chose à telle heure et comme par hasard, on m'a appelé pour me dire qu'il ou elle était parti à telle heure.
Ah oui, et puis j'ai tout visualisé, je voyais les choses, quoi.
Bah, c'est vrai que chez vous, c'est encore plus, mais vous savez, moi, je pense qu'on vient sur cette terre, notre âme vient avec une durée de vie et une mission. Et que peut-être votre papa, il avait terminé sa mission.
Alors, je suis en colère contre lui. Enfin, non, depuis 20 ans, il me manque.
Bien sûr.
Le sentiment le plus terrible, c'est le manque. Même si on pouvait pas se toucher parce que maman était jalouse et elle détestait les câlins, elle disait sa devise était « caresse de chien, ça donne des puces », vous voyez le genre. Mais on se regardait, mon père et moi, on se comprenait, quoi. On se téléphonait rien qu'à la voix, même en parlant du temps qu'il faisait, on savait ce qu'on voulait se dire. J'ai encore le réflexe, vous voyez là, je serais capable demain matin de dire, oh bah je vais appeler papa pour lui dire que j'ai pas, ça m'a fait du bien, j'ai appelé Sabine, et puis ça m'a fait du bien. Et je vais aller au téléphone et c'est au moment de décrocher que je vais dire, mais n'importe quoi, ça m'arrive encore 20 ans après, c'était un an après. Mais
Anaïs,
depuis quelques temps, je suis passée à la colère. Quand je vais mal, des fois, je lui en veux, je lui dis, mais pourquoi t'es pas là que je puisse te le dire, que tu puisses me parler, que tu puisses me conseiller comme tu faisais, quoi.
C'est très important ce que vous dites là. Reconnaître les émotions qui remontent quand on y pense, c'est déjà un premier travail. Mais vous savez, tout à l'heure, vous me disiez, c'est très difficile d'entendre des gens qui arrivent, qui vont bien, qui sont positifs. Mais c'est un travail, c'est une thérapie. Il y a plein de gens qui n'y arrivent pas tout seuls et c'est normal. On a tous besoin que quelqu'un nous prenne par la main pour nous faire avancer. Est-ce que vous avez fait une thérapie? Est-ce que quelqu'un vous a pris par la main pour vous faire avancer dans ce travail de deuil?
bien, quand c'est arrivé, c'est ce que je vous disais, j'étais déjà en thérapie depuis 20 ans.
Oui, mais après ça.
Ah oui, après aussi. Oui, je le suis toujours.
Donc, depuis
c'est pour ça que je désespère, parce que je me dis, mais quand est-ce que les choses vont tourner dans l'autre sens? Qu'est-ce que j'ai en moi qui fait que ça ne bouge pas? Et qu'au contraire, ça s'empire, que c'est dans le mauvais sens que ça...
Vous faites quel genre de thérapie?
J'ai fait avec une psychiatre, mmh. On a fait à la fois une thérapie classique, visu à visu, et un peu de psychanalyse.
D'accord. Et vous êtes sous traitement, sous médicament?
Oh oui.
Aussi.
Oui, j'ai un médecin traitant qui me connaît depuis plus de 30 ans, oui.
D'accord, donc vous êtes bien encadré, mais vous avez l'impression que ce travail de deuil ne se fait pas, en fait?
Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout.
Mais je pense qu'il est le travail de deuil peut-être est resté coincé par la violence du suicide.
Quand il y a... Alors en plus j'ai la foi, et puis quand j'en parle, que certaines personnes autour de moi qui ont la foi aussi. Alors moi j'ai ma foi à moi, on va dire, hein, mais certaines personnes qui sont un peu grenouilles de bénitier d'un certain âge me disent « Oui, mais il faut que tu lâches parce que en plus tu emprisonnes son âme dans les limbes, tu ne le libères pas, etc. » Donc alors, elle me culpabilise aussi pour son âme, quoi. Pour l'avenir de son âme.
Et puis vous savez dire à quelqu'un « il faut », c'est bien, il est où le bouton,
hein? Ah oui, c'est « il faut, il y a qu'à ».
Il y a qu'à,
faut qu'on, je ne veux plus entendre. Ça, on ne supporte pas ça.
Bien évidemment, si c'était si simple, ça se saurait. Mais je pense que chez vous, je ne sais pas comment vous travaillez avec votre thérapeute, mais le premier travail, il est sur l'acceptation du suicide. Parce que quand on est dans le traumatisme, dans le choc et la colère, et c'est normal de l'être, parce que c'est très violent, surtout un suicide comme ça, je crois qu'on bloque le début du processus de deuil. On ne l'accepte pas.
Alors, je crois aussi qu'il y a une chose dans mon cas, parce que je réfléchis, au bout de tant d'années, on est un peu égocentré et on s'auto-analyse quelque part. Et puis j'ai toujours eu tendance aussi à tellement me culpabiliser et être culpabilisée et savoir ce que j'avais fait de mal par rapport à ma mère et tout ça, si ça venait de moi ou pas. Mais je crois aussi que comme j'ai fait 8 tentatives de suicide et que moi, je n'ai pas réussi, entre guillemets, mais lui m'a sauvé 6 fois, je me sens aussi coupable. Lui, moi, 8 fois et j'y arrive pas. Lui, une fois et il y arrive, quoi. Il enquiquine pas le monde. En une fois, il s'en va. Et je me dis, voilà, si toi tu l'avais fait, lui, si tu l'avais réussi, lui, il l'aurait pas fait, quoi.
Eh ben non, on ne peut pas refaire l'histoire comme ça. Chacun a son destin, chacun a son chemin de vie. Et vous le savez mieux que personne, je pense. C'était son chemin de vie. Ça n'est pas le vôtre.
Mais les gens, alors, il y a aussi... Alors, il y a des gens qui m'ont dit « Oh, qu'est-ce qu'il a été courageux !» Si ça voulait dire qu'il souffrait, etc. Trop souvent, c'est une preuve de courage. Et puis, il y a les autres qui disent « Mais c'est de la lâcheté. C'est simplement de la lâcheté. » Et ça, je ne supporte pas qu'on dise...
Mais une fois de plus, chacun interprète ça en fonction de sa propre histoire et de ses propres blessures.
Parce que, comme je suis passée par là, moi, je sais que quand j'ai tenté, je n'étais pas lâche. Ce n'est pas forcément que je voulais mourir, c'est que je voulais plus vivre comme c'était, quoi. Mmh. Comme en ce moment, je ne veux plus vivre comme ça, quoi. Je ne pense pas que ça s'appelle de la lâcheté, ça, c'est juste... J'en peux plus, quoi. Je veux que ça s'arrête.
Et pourtant, vous avez un mari, des enfants qui sont là, qui vous aiment, qui sont autour de vous.
Ouais. Et pourtant.
Ce qui m'ennuie dans ce récit-là, c'est que vous avez un traitement et une thérapeute et que j'ai pas l'impression que ça vous aide et que ça vous fasse avancer.
Non, pas du tout.
Est-ce que vous avez envisagé...
C'est justement pour ça que je vous appelle.
Alors, je vais pas me faire de copine, mais est-ce que vous avez envisagé d'en changer?
J'en ai changé. Non, j'ai changé par la force des choses parce que ma première thérapeute a pris sa retraite il y a On est en 2009. Mais
que vous en ayez changé par le passé, ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Si aujourd'hui, il n'y a personne qui peut vous aider à avancer dans cette tristesse-là, pour moi, il y a vraiment un problème. Soit de personne, soit de technique.
Alors, j'en ai changé il y a 6 mois. J'en ai à nouveau depuis 6 mois. Et ça se met en place. Mais le problème, c'est qu'avec mes problèmes de fibromyalgie, eh bien, je n'arrive pas à être assidue dans mes rendez-vous, quoi. C'est-à-dire que je crève, j'ai hâte d'aller au rendez-vous, je crève d'envie d'y aller. Mmh. Et puis le matin arrive et puis je suis au 36e dessous et obligée d'annuler le rendez-vous, quoi. Et malheureuse en plus de ne pas pouvoir y aller, quoi.
Est-ce que, puisque vous m'écoutez souvent sur cette antenne, j'imagine que vous m'avez entendu déjà parler de MDR et de EFT ?
Oui.
Et là, vraiment, dans un cas comme le vôtre, c'est la première chose qui me vient à l'esprit.
Oui. Surtout qu'en plus, il y a des choses de mon enfance qui, au travers de certains appels, me sont revenues. Et justement, je les ai avouées à mon mari, mais des choses que j'avais occultées complètement. Des attouchements sexuels, etc., avec la complicité de ma mère, enfin, indirectement, on va dire, quand même, faut pas tout lui mettre non plus sur le dos, mais...
Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup, beaucoup de blessures et d'injustices dans votre histoire de vie. Et c'est comme si un peu votre papa était comme un couvercle qui maintenait tout ça, à peu près, et que quand il est parti, tout a explosé.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir vécu toute ma vie comme une funambule. Et mon papa était ma barre, vous savez.
Oui, tout à fait. Belle image.
Et ma barre est tombée. Et maintenant, je n'avance plus.
Alors, cette barre, elle est tombée visuellement, mais à mon avis, dans votre cœur, elle est toujours là.
Ah, dans mon cœur, oui. Est même
encore plus là. Bien sûr.
dans ma tête et dans mon cœur, encore plus.
Parce que vous l'avez perdu, d'accord, mais vous avez aussi la chance d'avoir un papa comme ça. Mm. Et ça, c'est pas rien. Vous avez croisé le chemin d'un homme merveilleux. Mm. Ça, c'est une grande chance. Dans tous ces malheurs qui vous sont arrivés, il y a quand même eu ça. Et il est toujours là, vous le savez bien qu'il est toujours là.
Des fois, j'ai l'impression de le sentir, oui.
Mais évidemment. Et vous avez l'air d'être très, très sensible et très connectée à tout ça.
Oui. Oui. Des fois, on me prend pour une folle parce que je visualise, je vais voir une voisine, je vais la rencontrer et je vais rentrer à la maison. Je vais dire à mon mari, tu vois, Madame Machin, elle est enceinte. Et ça va être un petit carrefour.
Vous avez plein d'intuitions.
Exactement. Ouais.
Est-ce que je peux me permettre de vous... Parce que l'émission ne va pas tarder à se terminer. Est-ce que je peux me permettre de vous donner un petit conseil?
Oh, avec plaisir. Je prends tout ce qu'on veut bien.
Parce que je pense, et c'est logique quand on a vécu un traumatisme comme ça, qu'à chaque fois que vous pensez à la mort de votre papa, vous avez cette image de la corde et de la pendaison.
Oui.
Vous l'avez mentionné plusieurs fois et c'est quelque chose qui revient. Ça, c'est un traumatisme sur lequel il faut absolument travailler en EMDR. Ça, c'est vraiment important. Mais avant même d'y aller, quelque chose que vous pouvez faire seul, c'est imaginer une façon plus douce de partir. Simplement, imaginez-vous dans votre tête que votre papa est dans son lit, qui vous dit au revoir et que la lumière s'élève et qu'il part avec cette lumière.
Oh, c'est beau.
Superposez une image de douceur à cette image-là.
Oh, ça lui correspond tellement mieux.
Alors faites-le. Faites-le. Rejouez cette scène dans votre esprit en y mettant plein de douceur, plein de lumière et plein d'amour.
En plus, il était solaire, il était bronzé, mat, de peau avec des yeux verts. C'était quelqu'un de solaire.
Il y a un très gentil message d'Odile qui vient d'arriver pour vous, qui dit « Mais quel courage vous avez d'avoir traversé tout ça et de vous être relevé de tout ça. J'ai perdu ma mère aussi dans une situation difficile, j'ai traversé les perturbations. Si vous souhaitez causer, ceci est une main tendue. » Et c'est signé Odile qui laisse son téléphone pour vous.
Avec plaisir, avec plaisir.
Il y a beaucoup de messages de gens qui vous trouvent très touchantes ce soir et qui vous soutiennent.
Je les remercie, mais moi je ne me trouve pas courageuse.
Mais parce qu'en ce moment vous voyez tout en noir. Mais moi je sais que vous avez les ressources en vous, parce que cette lumière-là, elle est en vous. Elle est en vous.
Mais là, j'ai de vous avoir parlé, Sabine. J'ai l'impression d'un poids qui petit à petit là se dégage de moi. Ça, c'est incroyable, quoi. Je sais pas comment je peux vous remercier de m'avoir écouté.
C'est moi qui vous remercie de cette confiance. On est là pour ça, vous savez.
En tout cas, ça m'aura pris du temps, mais ça aura valu le coup de vous parler. Vous êtes extraordinaire. Et je remercie ceux qui ont pris le temps, qui n'ont pas coupé leur radio, qui sont encore là à m'écouter geindre et me plaindre.
Vous savez quoi ? Deuxième conseil, mais c'est presque un ordre que je vais vous donner, si je peux me permettre. Arrêtez de vous excuser d'exister. Hein ? Vous avez le droit de prendre votre place dans la vie. Il y a de la place pour tout le monde sur cette terre. Alors prenez votre place.
C'est ce que mes amis me disent tout le temps.
Mais oui.
Ils me disent, mais toi, on ne veut pas que tu partes. On a besoin de toi.
Et le premier qui a besoin de vous, c'est votre papa. Si c'était l'inverse, si c'était vous qui étiez parti, qu'il était resté, vous auriez aimé quoi ? Qu'il soit malheureux à pleurer tous les jours, qu'il relève la tête et qu'il vive bien, qu'il soit heureux. Et bien voilà, le plus bel hommage que vous pouvez lui rendre, c'est ça.
D'ailleurs, si je ne fais pas comme lui, c'est parce que je ne veux pas que mes enfants connaissent la douleur que je ressens. Même si moi, je suis loin d'être une maman comme il à la hauteur de ce qu'il était un papa, quoi. Parce que mes enfants sont en pleine souffrance à cause de moi. Et mon mari, je le trouve juste aussi extraordinaire de me supporter et de m'aimer comme ça, quoi.
Alors profitez de cet amour-là, restez connecté à votre papa, hein, à cette image de lui qui part dans la lumière. Et si vous le pouvez, vraiment aller faire un petit peu de MDR et de EFT pour vous libérer de cette souffrance, même physique, ça va vous aider aussi.
J'en ai parlé à mon mari, je lui ai demandé de m'emmener faire ça, je lui ai parlé des choses qui me sont revenues comme ça violemment.
Il y a beaucoup de traumatismes à nettoyer aussi chez vous. Hein. Ouais. Et je pense que c'est tous ces traumatismes-là qui vous bloquent dans ce travail de deuil, qui font que ça n'avance pas.
D'accord.
Donc il va falloir faire d'abord un grand ménage émotionnel, vous rebooster, retrouver cette belle connexion, vivre pour lui aussi, pour qu'il soit fier de vous là-haut.
Ouais. Hein. C'est vrai que des fois je l'imagine mais en regardant et se disant mais c'est pas possible, je t'ai pas élevée comme ça.
Vous vous êtes cassé la figure mais vous allez vous relever maintenant, vous redresser la tête et les épaules, prendre votre place dans cette vie, arrêter de vous excuser et retrouver la lumière, celle qui est en vous. D'accord ?
Oui.
Il va falloir que je vous quitte, l'émission se termine, je vous embrasse de toutes mes forces, je vous donne plein d'énergie.
Tellement besoin
qu'on me câline. Et bien, à distance, je le fais. Je vous embrasse, Anaïs. Merci. Et donnez-moi de vos nouvelles dans quelques temps pour me raconter comment ça a évolué, tout ça, d'accord ?
Promis.
Je vous embrasse.
Promis. Merci à tous et bon courage à tous.
Merci, Anaïs et à Gaëtan d'être venus partager leur vie ce soir avec nous. La Libre Antenne, c'est terminé pour ce soir. Je vous retrouve demain à partir de 23h sur Europe 1. Avec, je vous rappelle, une libre antenne spéciale consacrée à la dépression. Bonne nuit et à demain.